dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et il est 19h05 en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle édition de l'Amérique et vous. Au micro, Jacques Aristide, en direct du studio 9 de la VOA à Washington. De l'autre côté de la vitre, Gisèle Morissin pour la mise en onde. C'est confirmé, le chef de l'exécutif américain Joe Biden se rendra en Angola dans le courant de la première semaine de décembre. Le voyage, initialement prévu début octobre, a été reprogrammé en raison de l'ouragan Milton en Floride. Il s'agira de son premier et peut-être son unique déplacement en Afrique en tant que président des États-Unis. Le séjour interviendra un mois après l'élection présidentielle, mais aussi avant son départ de la Maison-Blanche en janvier 2025. Pourquoi cette visite d'État est-elle qualifiée de tardive sur un continent jugé stratégique? Entre rivalité avec la Chine et la Russie et enjeux économiques majeurs, notamment autour des ressources naturelles, les États-Unis sont-ils prêts à revenir sur le devant de la scène africaine? Réactions et commentaires à venir. Trois invités pour nous accompagner jusqu'à 19h30 via WhatsApp de la République démocratique du Congo. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi. Bonsoir Frédéric. En ligne de l'État de la Virginie, Christian Bassoubi, informaticien et entrepreneur d'origine congolaise qui partage certaines politiques prônées par le Parti républicain des États-Unis. Bonsoir Christian.
Bonsoir.
Également depuis la Virginie, Camille Baba, juriste et sympathisant du Parti démocrate américain. Bonsoir Camille.
Bonjour et bonsoir à mes amis.
Voilà. Camille Baba, pourquoi le président démocrate Joe Biden a-t-il attendu la fin de son mandat pour enfin se rendre en Afrique alors que son administration avait promis de faire de ce continent une priorité stratégique face à la montée en puissance de la Chine et de la Russie dans cette même région de la planète?
Merci bien pour la question. Merci à tous nos invités. Je voudrais seulement souligner un petit détail. Ce que le président de la République américaine, M. Joe Biden, a pris le pouvoir en janvier 2021, où le monde était en plein COVID-19. N'oublions pas que voilà, les priorités, c'était de pouvoir mettre un peu de souffle pour éviter la montée de cette pandémie qui a bouleversé le monde pendant ce temps. Le voyage du président américain ne marque pas un mépris de la part du continent africain. D'ailleurs, il faut souligner que voilà, c'est l'Amérique qui a été un des plus grands partenaires de l'Afrique subsaharienne pour les vaccins, pour la vaccination à la population locale de l'Afrique. Donc, le voyage ne signifie pas que le président a voulu se racheter. Donc, c'est très important de souligner ça.
D'accord. Christian Bassoubi, l'ancien président Donald Trump, actuel candidat républicain à la présidentielle du 5 novembre, a souvent critiqué les engagements américains en Afrique, estimant qu'ils n'apportaient pas de bénéfices tangibles aux États-Unis. Pensez-vous que cette vision économique à court terme ne risque pas de laisser le champ libre à la Chine et à la Russie sur un continent décrit donc comme stratégique pour l'avenir ?
Oui, merci pour la question. Il s'agit un peu de comprendre aussi pourquoi cela est le point de vue de beaucoup de républicains. Nous voyons du côté des démocrates où ils ont dit que nous tous sommes ici en train de parler de l'importance que l'Afrique a pour l'avenir du monde, pas seulement des États-Unis, mais aussi du monde. Avec sa jeune population et son important apport dans le monde entier. Alors, une politique pareille doit bien évidemment être prônée par tous. Ça, c'est déjà un. Et Le point de vue de Donald Trump, l'ancien président américain par rapport à cela, il a prouvé que on pouvait avoir des relations avec les États, avec l'Afrique en général, ou avec des pays africains en particulier, tout en étant aussi réservé, tout en étant aussi focus sur nous-mêmes aussi, aussi aux États-Unis. Donc, nous avons des relations avec les initiations prônées par le président exactement pendant son mandat. Oui. Là, je veux voir, par exemple, quand ils ont lancé le Prosper Africa Initiative. Mm-hmm. Donc, c'était pour aussi prôner une politique un peu avec l'Afrique, une politique gagnante-gagnante, si il faut dire, avec l'Afrique, mais tout en essayant aussi de regarder du côté des États-Unis. Oui. C'est un peu ça que je peux dire. Oui.
D'accord. Frédéric Amani, avec ce voyage prévu donc en Angola, le président Biden attend-il de laisser une empreinte dite symbolique en Afrique pour légitimer un bilan international que ses détracteurs jugent en demi-teinte? Le périple est-il plus destiné à l'histoire qu'à un véritable impact sur le terrain?
Bien, je pense que tous les deux, je crois qu'il y a un impact historique de la visite, si un impact stratégique dans la mesure où, c'était une promesse que le président Biden avait faite au chef d'État lors du sommet à États-Unis-Afrique en 2002, mais on doit aussi reconnaître qu'il y a eu des impondérables, les conflits entre Israël et Hamas, les conflits en Ukraine et la Russie. Il y a aussi, n'est-ce pas, le retrait des troupes américaines au Niger. Je crois que ces éléments-là, même son désistement en faveur de Mme Kamala Harris, je crois que ces éléments ont pu empêcher que le président Biden se rende à temps en Afrique ou régulièrement, mais il a été représenté par son secrétaire d'État et Madame Kamala Harris. Et je pense que c'est stratégique dans la mesure où, du fait que le continent africain est devenu un continent stratégique par rapport à tout ce que le continent a comme ressources, et pour contrer l'influence chinoise, russe ou des autres pays émergents, il y a lieu là que les États-Unis soient présents en Afrique en nouant des partenariats stratégiques et, n'est-ce pas, en consolidant les partenariats qui existent pour ne pas laisser champ à la Chine ou à la Russie. Parce que la puissance, c'est aussi la capacité d'avoir des alliés d'influence. Donc, je pense que l'Afrique est pour tout le monde, c'est-à-dire pour la Chine, pour la Russie, mais aussi pour les puissances traditionnelles, dont les États-Unis. Et je pense que c'est historique, mais aussi c'est stratégique. Et les États-Unis sont en train de jouer sa partition. Je crois que le président Biden ne pouvait pas laisser visiter l'Afrique, sinon ce serait une erreur stratégique, si je peux le dire ainsi.
Un mot sur l'Angola, justement. Alors, pays riche en pétrole et minerais, pays qui abrite l'un des plus importants investissements américains dans des infrastructures sur le continent africain, une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la RD Congo, nation semi-enclavée, et la construction d'un embranchement vers la Zambie, qui est, elle, entièrement enclavée. Les 1300 km de rail de ce couloir de Lobito achemineront sur la côte atlantique des ressources cruciales pour l'économie mondiale, cuivre et cobalt notamment, depuis ces deux pays, également riches en minerais. D'ailleurs, en recevant en décembre 2023 son homologue angolais João Lourenço à la Maison-Blanche, Joe Biden avait qualifié ce projet, qui est aussi soutenu par l'Union européenne, de plus importants investissements américains de tous les temps dans le rail africain. Mais Camille Baba, des ONG comme Amnesty International critiquent le régime angolais pour ce qu'elle qualifie de répression de l'opposition et de violation des droits de l'homme. En mettant l'accent sur les infrastructures, notamment avec le couloir de Lobito, les États-Unis ne risquent-ils pas de saper leur propre message de défense des valeurs démocratiques et des droits humains en Afrique?
Bon, c'est une question importante. Il faut aussi reconnaître sur le fait d'abord que l'Angola a un symbole particulier vis-à-vis de l'Amérique. Il ne faut pas oublier que pendant les années 80-70, il y a eu des hostilités politiques entre l'Angola et l'Amérique pendant la période de la guerre froide, où il y a eu une influence grande de la Russie, du Cuba, des pays communistes, la Chine y compris en Angola. Et puis le support de l'Amérique à l'UNITA, le mouvement d'opposition militaire qui s'est battu contre le MPLA. Depuis 1983-93, l'Amérique a pu créer un pont de négociation, un pont de relation entre l'Angola. Depuis ce temps, il faut reconnaître, il y a eu l'administration Clinton, de Bush et puis Obama, il faut reconnaître aussi que l'Angola a une position stratégique, comme vous venez de le dire, et l'Amérique a fait un pas géant dans ses relations. Aujourd'hui, si nous parlons d'un pays subsaharien, disons de l'Afrique noire, qui a des plus grandes relations économiques et militaires avec l'Amérique, il faut citer l'Angola et le Nigeria. Donc, le problème que vous avez abordé sur le droit de l'homme, c'est un problème qui passe dans tous les pays. Il n'y a aucun pays qui peut se dire que voilà, nous avons les mains propres. Cela ne fait pas... Je salue le travail d'Amnesty International, de toutes les organisations humanitaires qui soulignent ce qui se passe dans le monde. Mais cela ne fait pas... Il faut aussi savoir aussi que voilà, il y a une corrélation directe entre la pauvreté, le manque d'infrastructures, l'instabilité politique avec les droits de l'homme. Donc, si nous pouvons focus sur l'aide à l'infrastructure, l'aide économique, stratégiquement liée à entretenir une démocratie forte, je pense qu'on peut minimiser le rapport. Les accusations dont vous parlez.
Christian Bassoubi, Donald Trump a été accusé d'avoir largement ignoré l'Afrique quand il était président entre 2016 et 2020. S'il revient au pouvoir, pourrait-on voir un retour à une politique isolationniste marquée par la réduction des aides et des investissements, ou bien l'influence croissante de la Chine et de la Russie obligera-t-elle les États-Unis, quelle que soit l'administration, à maintenir une présence forte sur le continent ? Christian Bassoubi, si vous m'entendez.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, allez-y.
Oui. Moi, je pense que, quoique Donald Trump a été plus fermé par rapport à l'extérieur et qui a priorisé d'abord les États-Unis, mais il est important de noter que l'importance de l'Afrique et la croissante l'Afrique étant importante, je ne pense pas qu'on sera en mesure de ignorer l'importance qu'elle a et de laisser la place à la Chine et à la Russie de tout prendre et de tout gérer comme ils le font là maintenant. Moi, je pense que les États-Unis tiendront toujours à avoir leur présence aux États-Unis en Afrique. Et après cette visite de Biden en Angola, moi, je l'espère que si le président républicain revenait au pouvoir, je l'espère vraiment qu'ils vont aussi essayer d'organiser plusieurs forums avec des pays africains, parce qu'il les a fait. Il a fait, quand il était pendant son mandat, il a fait venir plusieurs présidents africains à New York, si je me le rappelle bien. Donc cela veut dire que malgré sa politique interne, il a toujours eu cette vision de voir aussi les États-Unis avoir leur présence en Afrique. Et je pense qu'ils vont toujours continuer à faire cela. Et voudront aussi avoir quand même leur part aussi, leur part de présence en Afrique.
Frédéric Amani, depuis Lubumbashi, comment percevez-vous l'influence des grandes puissances étrangères comme les États-Unis, la Chine et la Russie en Afrique ? Le président Biden a-t-il réellement marqué une différence en faveur de l'Afrique par rapport à ses prédécesseurs, ou est-ce plus de la continuité dans la rivalité des puissances ?
Bien, je crois que depuis l'arrivée du président Biden à la Maison Blanche, il y a eu, n'est-ce pas, cette coopération ou ce partenariat entre les États-Unis et l'Afrique qui a montré ses preuves, contrairement, n'est-ce pas, à l'administration Trump qui, vous l'avez dit, était isolationniste, où il s'est, n'est-ce pas, recroquevillé sur l'Amérique. Et je pense que la puissance, c'est aussi la capacité d'influencer en dehors de ces sphères. Et je pense, encore un autre élément, que l'Angola, ce n'est pas un pays choisi au hasard. Vous l'avez dit, l'Afrique, c'est un continent stratégique par rapport à l'influence russe et chinoise, mais aussi par rapport aux ressources dont regorge l'Afrique. Mais il faut pas oublier que, vous l'avez dit, avec l'investissement américain sur le rail des Lobito, c'est aussi pour s'ouvrir vers l'Atlantique. Et il y a des minerais qui sortent de la RDC et de la Zambie, et la RDC, qui est un pays aussi stratégique par rapport à tout ce que le monde a besoin dans l'industrie. Mais sans oublier aussi, je voudrais rappeler ici, que l'Angola joue la médiation dans les conflits qui opposent, n'est-ce pas, la RDC et le Rwanda. Je crois qu'il y a aussi tous ces contours dans la visite du président Biden. Et je pense qu'il y a lieu ici que l'Afrique puisse capitaliser les partenariats qu'elle noue avec, que ce soit les puissances traditionnelles ou les puissances émergentes. Parce que, en relation internationale, les États ne se donnent pas des cadeaux. Mais tout dépend de la capacité d'influencer et de mettre en place, n'est-ce pas, un rapport de force qui vous permet de tirer profit de l'interdépendance que vous nouez. Il est vrai que la visite d'un chef d'État ne change pas grand-chose si l'interlocuteur ne met pas les cartes sur table pour tirer profit de cette visite. Nous pensons que la visite du président Biden, non seulement elle ne sera pas profitable aux États-Unis et à leurs alliés, mais elle sera aussi profitable et à l'Angola, mais aussi aux alliés de l'Angola, dont notamment la RDC. La RDC peut profiter de la visite du président Biden en Angola pour, n'est-ce pas, participer à la reconfiguration sous-régionale, et ce sera à son avantage. Donc, tous les partenaires de l'Angola et des États-Unis sont attentifs à cette visite pour que ça apporte, si vous voulez bien, une relation à somme multiple et non une relation à somme nulle.
Chers invités, s'il vous plaît, restez avec nous. Vous également, chers amis fidèles de la VOA qui êtes branchés, vous êtes à l'écoute de l'Amérique et vous, un programme que vous propose VOA Afrique chaque vendredi.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
1000 fois merci de votre fidélité. Jacques Aristide de retour avec vous dans l'Amérique et vous. Le président américain Joe Biden est attendu en Angola début décembre dans le cadre d'une série de voyages internationaux d'adieu au cours des derniers mois de sa présidence après s'être retiré en juillet dernier de la course à la Maison Blanche. D'ailleurs, il effectue ce vendredi 18 octobre une visite d'État en Allemagne. Poursuivons la discussion avec nos invités depuis la RDC, Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, en ligne de la Virginie, ici aux États-Unis. Christian Bassoubi, informaticien et entrepreneur qui dit partager certaines politiques prônées par le Parti républicain. Également basé en Virginie, le juriste Camille Baba, sympathisant du Parti démocrate. Camille Baba, nous le disions, l'administration Biden avait indiqué vouloir renforcer les relations avec l'Afrique, mais le président américain a finalement prévu d'effectuer qu'un unique voyage officiel en Angola à la fin de son mandat. Pensez-vous que la candidate démocrate Kamala Harris, si elle est élue, pourrait réellement inverser cette tendance et redonner une place prépondérante à l'Afrique dans la politique étrangère américaine?
Oui, bien sûr, mais je voudrais aussi qu'on tire une petite conclusion que l'administration Biden n'a pas oublié l'Afrique. Il faut reconnaître aussi que le secrétaire d'État à la Défense, M. Austin, et le secrétaire d'État au département d'État aux affaires étrangères américains, M. Austin, ont fait de visites importantes dans ce pays.
Oui, et le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken.
Oui, Anthony Blinken. Donc, il faut reconnaître aussi que, voilà, des négociations sous-structurées, sont faites, sont plus importantes que la visite du président, qui est, au fait, une visite symbolique. En reprenant ce que mon frère, mon ami, notre frère Frédéric, professeur Frédéric...
Il faudrait également rappeler que la vice-présidente Kamala Harris a visité le continent, tout comme la première dame, Jill Biden.
Le couloir de l'océan Atlantique, c'est un couloir très important à la navigation maritime. Et l'Angola se positionne avec une force, avec l'influence. Il faut pas, nous ne voulons pas aussi minimiser l'influence du BRIC en Afrique du Sud, où le président américain jette des pions pour renforcer les relations avec l'Angola, qui, au fait, pourrait aussi capitaliser sur l'infrastructure de recherche spatiale, où on pourrait aussi renforcer des relations militaires sur place pour contrecarrer, il faut être réaliste, une flotte maritime importante de la Chine ou de des BRICS qui pourront mettre un peu un pont négatif dans ce couloir. Nous nous rappelons ce qui se passe à l'océan Indien, à la sortie, à l'entrée du golfe, des golfes, et puis les pirates somaliens. Quels sont les effets? Alors, c'est une anticipation stratégique que le président est en train de lancer, et comme vous dites, j'espère bien que Mme Kamala Harris pourra briguer un mandat à partir du mois prochain et continuer à construire ce béton de relation entre l'Amérique et l'Angola.
Oui. Christian Bassoubi, si Donald Trump décroche un nouveau mandat, faut-il s'attendre à ce qu'il adopte une approche purement transactionnelle avec le continent africain en se focalisant uniquement sur les ressources stratégiques comme le pétrole et les minerais au détriment des enjeux démocratiques et des droits de l'homme? Brièvement, si vous pouvez, le temps file malheureusement.
Bien sûr que oui. Moi, je pense que si les républicains pourraient percevoir... Déjà, les républicains perçoivent la visite de Biden en Afrique comme un geste symbolique, mais tardif. Ça reflète un peu une administration qui aurait dû accorder plutôt l'importance stratégique au continent. Right? Alors, je pense que même avec les républicains au top, au top à la Maison Blanche, ils seront tous basés sur ils pourraient saluer les efforts visant à rivaliser avec la Chine et la Russie, tout en appelant une approche plus orientée vers les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis.
Voilà. Permettez-moi de poser cette question à Frédéric Amani. Avec la persistance des conflits meurtriers dans nombre de pays en Afrique, que doivent attendre les Africains d'un nouveau président américain, qu'il soit républicain ou démocrate? Peuvent-ils espérer une politique plus active pour la paix et la stabilité sur le continent?
Je crois que oui, parce que l'Amérique, avec toutes les valeurs démocratiques, c'est d'inviter les États africains qui s'affichent des dictateurs, n'est-ce pas, à privilégier la bonne gouvernance, la démocratie, pour aider, n'est-ce pas, à résoudre un problème de pauvreté et de sous-développement. Parce que on a compris que certains pays africains sont aussi sous-développés ou plus pauvres, parce que les dirigeants africains certains, les dictateurs la plupart, s'adonnent, n'est-ce pas, à la mauvaise gouvernance, à bafouer le respect des droits de l'homme. Et je crois que l'administration américaine, qu'elle soit démocrate ou républicaine, cherche à promouvoir ces valeurs-là. Et nous pensons que la visite du président Biden va mettre un ton pour la présence américaine, pour contrer l'influence des émergents et pour une coopération gagnant-gagnant.
Voilà, c'est tout pour l'Amérique et vous, édition du vendredi 18 octobre 2024. Merci à nos invités Frédéric Amani, Christian Bassoubi et Camille Baba. Joselle Morissin a assuré la mise en onde. Nouveau rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit. Jacques Aristide du Studio 9 à Washington. Je vous souhaite une très belle soirée, un merveilleux week-end. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de la VOA. Take care. Merci.